Mais voilà, dans le cadre habituel. Salut David.
J'allais dire, je te fasse une chronique sport.
Ben, tu peux rester si tu veux. Ouais, non,
je vais rester dans ce que j'excelle un peu plus finalement, que je connais plus. Hey Valérie, je peux-tu commencer par dire quelque chose et te féliciter pour le prix que tu as gagné?
Ah, c'est une vieille nouvelle. Ça,
ben, je sais que c'est une vieille nouvelle, mais moi, j'avais pas eu la chance de te féliciter. Donc, je vais quand même le dire, c'est pleinement mérité. Je travaille avec toi une fois par semaine et en tout cas, tu es très professionnel et tu le fais bien. Fait que c'est bravo, je suis content que tu aies gagné.
Ben, t'es bien gentil, David.
Et probablement que tu mériterais de gagner un voyage, mais
non,
bon, t'as pas gagné de voyage.
Non,
hein?
Mais ça me dérange pas.
OK. Non, j'avoue.
Je suis bien chez nous.
Hein. C'est vrai. Écoute, je fais un mauvais lien, mais c'est juste pour dire, parce qu'on a beaucoup de patients qui se préparent à partir pour l'hiver, pour 3 mois, 4 mois, 6 mois à l'extérieur. Et je veux juste rappeler aux gens que les normes de Santé Canada et versus les autres pays sont quand même assez strictes au niveau des médicaments. OK? Alors, le message que je voulais lancer, c'est de ne pas hésiter à aller s'informer aux pharmaciens de comment ça fonctionne, parce qu'il y a des molécules plus particulières que d'autres. Je dirais que pour les médicaments de tous les jours, là, les médicaments réguliers, souvent un 90 jours de traitement ne posera pas problème. Donc, on pense que c'est une durée que même à l'extérieur du pays, les douaniers ne vous arrêteront pas pour ça. Par contre, on conseille toujours d'avoir votre liste de médicaments, d'avoir les étiquettes sur chaque médicament aussi, pour être certain qu'ils vous laissent vos choses. Et les gens qui prennent des narcotiques, des opioïdes, donc de la morphine et ses dérivés, là, il y a des particularités un petit peu plus. Donc,
apportez votre pote, là.
Non, ça passera pas encore, ça.
Pas,
non, ça dépend. Si on s'en va au Colorado, ça a l'air que ça marche. Mais non. mais c'est ça pour dire que informez-vous comme il faut et préparez-vous d'avance. OK? Donc, demandez aux pharmaciens d'avance. Des fois, c'est des grosses quantités. Il nous faut les commander. Puis qu'on vous guide comme il faut pour être sûr de ne pas avoir de problème aux douanes et de faire un beau voyage en santé.
Là, tu t'en vas vers le produit laitier?
Oui, parce que la semaine dernière, Valérie, tu me posais une question par rapport aux asthmatiques.
Oui.
Et ça fait 2 fois, tu t'en rappelles peut-être pas, mais dans les 3-4 dernières années qu'on travaille ensemble, ça fait 2 fois que tu me ramènes l'histoire du lait.
Je sais.
C'est asthmatique.
Bonne mémoire.
Ah, absolument. Puis là, je me suis dit, bon, là, je le sais que j'ai pas de données là-dessus, mais je vais aller fouiller un peu plus.
Ouais.
Sais-tu d'où ça remonte? L'histoire de penser que le lait pourrait nuire aux asthmatiques?
Moi, c'est ce qu'on m'a dit en 87, là. Mais je sais
pas. Ça fait quand même quelques années.
Oui, ça fait quelques années.
Ça traduit ton âge.
Mais c'est pour ça que j'ai comme pris ça pour acquis, là. Mais à l'époque, Google n'existait pas.
Non, écoute, ça existe aujourd'hui, je suis allé voir, et ça remonte à la médecine traditionnelle chinoise.
Oh là là.
Et dans le fond, il y avait quand même une théorie en arrière de ça, c'est qu'il disait que le lait pouvait faire en sorte qu'il y avait une production accrue de mucus. Et que le mucus pouvait nuire aux voies respiratoires, donc nuire à nos asthmatiques. Il n'y a aucune donnée à ce sujet.
Mm-hmm.
Et la semaine passée, je t'ai dit, écoute, moi, j'ai rien à propos de ça, puis à part nos jeunes patients qui sont allergiques ou quoi que ce soit. Et effectivement, mais tu sais quoi le pire? C'est que le lait pourrait avoir un effet bénéfique chez nos asthmatiques.
Bien.
Et il y a des études... Ouais, là, je casse ton affaire au bout. Mais il y a des études qui nous prouvent que les femmes enceintes qui consomment plus de lait auraient peut-être des enfants avec moins de risque d'avoir des problèmes asthmatiques. Et chez les enfants, des études chez certains enfants, et on a découvert que dans certaines études où c'est vrai que le lait avec des matières grasses, parce que ça semble-t-il qu'il faudrait qu'il y ait assez de matières grasses dans le lait pour empêcher aussi au niveau, pour réduire finalement le risque d'asthme.
Okay. Mais moi, j'aimais pas ça le lait, donc ça m'a un petit peu sauvé. Hein?
Et tu sais quoi? Revenons aux données de Santé Canada, hein? Parce que le problème avec ça, et bon, je sais aujourd'hui que tu as des os forts et en santé et que tu as bien grandi, mais c'est quand même d'avoir 2 portions pour les 2 à 8 ans et d'avoir 3 à 4 portions dans les 9 à 13 ans parce que c'est la principale source de calcium. Mm. Donc, pour le calcium, pour la croissance, pour la densité osseuse. Donc, c'est super important. En passant, là, parlant d'aliments, la vitamine qui est ressortie dans certaines études avec un manque de vitamine D, finalement, il y a certaines personnes qu'on pourrait penser qui seraient plus à risque d'avoir de l'asthme. Donc, c'est la vitamine D qui pourrait être un problème. Je t'en ai déjà parlé, hein, parce que la vitamine D est quand même une vitamine hyper populaire au niveau des études. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que la vitamine D joue un rôle hyper important, même au niveau de notre système immunitaire. Puis, écoute, il y a quelques temps, mais je t'avais déjà dit que les patients qui avaient 4000 unités et plus par jour de vitamine D pourraient à la limite nous faire une vitaminose, donc avoir trop de vitamines.
Mmh.
C'est une donnée qui est même réfutée maintenant. Là. On se rend compte qu'on pourrait prendre des grosses, grosses doses de vitamine D, puis que ça l'aiderait même pour réduire les risques de rhume ou les durées des rhumes et des grippes. Donc, c'était juste ça, mon petit aparté par rapport à nos asthmatiques.
Mais le rhume, c'est encore 6 jours ou une semaine?
Oui. C'est encore la même
on
chose.
On déroge pas
On vous traite, mais on vous laisse vous débrouiller avec vos symptômes, finalement.
Est-ce qu'on change d'aliment, puis on parle du pamplemousse?
Et voilà, ça m'a fait penser au pamplemousse. Sais-tu, il y a combien d'interactions potentielles avec les médicaments et le pamplemousse?
Ça revient souvent, hein?
Écoute, plus de 100.
Ah, ouais.
OK, donc, premier message, informez-vous. Si vous consommez du pamplemousse et que vous avez des médicaments, allez voir votre pharmacien. C'est une histoire de cytochrome. Je t'ai déjà parlé des cytochromes P450.
Je le connais pas, lui.
Et là, là, écoute, ça, c'est des petits enzymes produits par le foie qui vont permettre au foie de métaboliser nos médicaments. Donc, on a le cytochrome P450-3A4, entre autres, qui est le cytochrome responsable dans ce cas-ci, parce que le pamplemousse pourrait, entre autres, inhiber ce cytochrome-là. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, si vous prenez du Lipitor pour le cholestérol, le Lipitor, lui, t'en prends une dans ta journée, puis le lendemain, t'en prends une autre, mais dans la journée, le cytochrome 3A4 va l'éliminer tranquillement pour permettre un état d'équilibre, finalement, dans le sang. Le pamplemousse, on le consomme, il bloque le 3A4. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Lipitor ne s'élimine pas à un rythme qui est normal. Donc, il s'accumule dans notre sang, puis à chaque jour, t'en reprends, puis t'en reprends, puis t'en reprends. Donc, ton corps n'est pas capable de l'éliminer adéquatement. Le pamplemousse, son interaction, c'est que si lui empêche le 3-4 de faire son travail, c'est pas réversible, c'est irréversible. C'est-à-dire que le 3-4 qui vient d'être atteint ne peut plus travailler et il faut que ton corps en produise d'autres. Donc, ça peut durer jusqu'à 3 jours.
Okay.
La question qu'on a souvent, c'est « David, si je prends mon pamplemousse le matin et je prends mon médicament le soir, je suis correct?
»
Non. L'interaction va durer jusqu'à 3 jours, donc elle va suivre dans le temps. Autre information intéressante, là, c'est, il y a des antibiotiques qui ont cette interaction-là. Donc, c'est important. Si on vous traite avec certains antibiotiques, il va falloir faire attention au pamplemousse aussi. Donc, c'est quand même à vérifier. Puis, je te dirais que le monde des cytochromes est un monde un peu sans fin, entre guillemets, là, dans le sens que là, je parlais du 3 à 4, mais entre autres, le 2D6, c'est un cytochrome qui métabolise la codéine. On n'est pas tous pareils par rapport à notre stock enzymatique. Donc, moi pis toi, moi, je pourrais métaboliser mieux que toi. Donc, peut-être que je métabolise
pas mieux que toi. Et ça se pitche bien dans une conversation. En tout cas, moi, je métabolise pas mal mieux que
moi,
toi.
Moi, je vais te dire une chose. Quand j'étais étudiant en pharmacie que j'ai appris sur les cytochromes, je le pluguais dans mes conversations parce qu'on se sent bien intelligent.
Je pensais que tu disais, moi, quand j'étais à l'université puis que j'allais boire le vendredi soir, je métabolisais 5 ans.
Ben, écoute, l'alcool est métabolisé. Tu sais, la caféine, là, c'est niaiseux, mais la caféine est métabolisée par le 1A2. La cigarette.
C'est ça par cœur, toi. C'est...
Ben, à vrai dire, il y en a qu'on retient un petit
c'est
peu plus d'autres.
Alpha numérique, là.
Il y en a qu'on retient plus que d'autres, parce que des fois, tu as un patient, le patient qui arrête de fumer, entre autres, le 1A2 va être en cause et la caféine. Donc, des fois, on va se ramasser avec des patients qui métabolisent de façon différente parce qu'ils ont un changement dans leur habitude de vie. Donc, ça a un impact sur leurs médicaments aussi. Fait que c'est comme un tout à réfléchir aussi, là. Puis, tu sais, ça va dépendre du patient, ça va dépendre de la dose, ça va dépendre du médicament. Puis, c'est la même chose avec le pamplemousse, là. Fait qu'il faut pas virer fou avec ça non plus. Mais souvent, on va s'ajuster au patient qu'on a devant nous. Et moi, entre autres, si j'ai un patient qui prend, tu sais, il part une interaction entre deux, puis je vais dire, ben, juste le temps de traitement, on va arrêter telle autre molécule, puis on va être correct par la suite. Mais c'est quand même à savoir parce que, écoute, il suffit de à peu près 200 millilitres, donc c'est moins d'une tasse de pamplemousse pour créer une interaction.
Oh, ouais.
OK? La question que tu devrais me poser, c'est, David, est-ce qu'on a la même affaire avec d'autres agrumes? Tu peux me la poser si tu veux.
Avec d'autres agrumes, là, mettons les oranges ou le citron, là, qu'est-ce que ça fait?
Et voilà, orange et citron, tu as pris les deux exemples parfaits parce qu'il n'y a pas d'interaction avec l'orange et le citron. Avec la lime, on aurait le même genre d'interaction qu'avec le pamplemousse.
Oh, ouais.
Donc, dans votre gin tonic ce soir, si vous prenez des médicaments, mettez du citron et non pas de la lime.
7-Up.
7-Up lime, non, ça doit être une saveur. Je ne sais pas si tu peux m'amener avec ça, mais je pense pas.
Yeah, c'est pour ça que tu existes. Hein? Si on a des questions avec nos interactions ou n'importe quelle autre question, on va partir en voyage, on peut aller te voir chez Brunet.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, David. Regarde, merci. Sorti vivant de ce chronique-là.
Bye. Bye.